Louis Pergaud, Les petits gars des champs. L'an dernier, ou plutôt pour être exact, en octobre 1912, quand nous eûmes publié, Alfred Machard et moi, et quasi simultanément, l'un Les cent gosses et l'autre La guerre des boutons, il y eut dans la mare à grenouilles littéraires un léger émoi. Présenter les enfants tels qu'ils sont était, paraît-il, un danger public, en même temps qu'une injure à la littérature officielle, qui avait, qu'il l'eût cru, des règles que l'on ne doit pas transgresser et des conventions qu'il ne faut point enfreindre. Et puis, ce n'était pas de l'art, prétendait un des pontifes, puisqu'il manquait à notre œuvre le trucage d'une grande pitié. L'habitude acquise dans mon jeune âge de sauter les murs et d'escalader les arbres, m'autorisait à préserver dans cette méthode excellente à mon sens, à planter là, avec leurs phénomènes de salon ou leurs héros plus ou moins livresques, les vieilles barbes du roman enfantin et à leur hurler aux choses quelques-unes des apostrophes cambronesques et vigoureuses dont j'ai largement usé au temps de ma joyeuse enfance, auxquelles j'ai plus qu'autre galé, comme disait François Villon. Cependant, de l'autre côté, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Plusieurs romanciers, ayant impitoyablement présenté dans leurs œuvres les enfants d'aujourd'hui comme de sinistres petits gredins, ils possèdent déjà le parler irréductiblement malpropre des gaillards mûrs pour les battes d'aff. Je fais allusion particulièrement ici à deux entrefilets parus dans le Temps des 7 et 21 novembre 1912. Il y est écrit « Le roman de M. Louis Pergaud » ne sera point lisible pour quiconque n'est pas familier avec Rabelais, dont la langue toute crue est encore aggravée ici des découvertes linguistiques de l'argot moderne. C'est fort dommage, car le récit est tout à fait remarquable de vie, d'observation, de pittoresque, etc., etc. Et plus loin, tout cela constitue une série d'histoires infiniment amusantes et d'un pittoresque qui ne se trouve évidemment dans aucun autre livre de notre littérature contemporaine. J'ai répondu à ces articles dans le Temps du 8 décembre 1912. Bien que ces appréciations fussent mitigées de compliments très flatteurs et fort chaleureux, on comprendra néanmoins que les auteurs qui figurèrent parmi les héros de leur roman se soient sentis légèrement chatouillés. Gibier de bagne, graines de batte d'aff, sinistre gredin, vous voilà prévenus, mesdames. Vous avez devant vous un de ces gaillards qui ne pouvait bien certainement que mal tourner un jour ou l'autre. Hélas, je dois l'avouer, c'est moi, certainement, qui ai le plus mal tourné de la bande puisque j'ai fait de la littérature. Quant aux autres, vous me permettrez de les défendre vigoureusement. Ce n'est point de notre faute si nous n'avons pas été élevés dans des boîtes de coton avec nourrices sèches ou humides, des gouvernantes à nos trousses et des valets de chambre pour venir nous cueillir le soir écoliers bien sages à la sortie de l'école. Nous n'avons pas grandi en serre chaude telle des plantes rares, mais en plein vent, comme de robustes sauvageons. Une greffe savante ne nous a point dès les premiers pas taillés pour les grands devoirs et mûris pour les beaux salons, où l'on sait s'incliner galamment, arrondir le bras avec grâce et sourire en faisant la bouche en chose de poule. Non, quelques gifles, simplement, de bonnes raclées distribuées à propos et sans parcimonie, ont suffi pour redresser les jeunes pousses qui, par instant, menaçaient de se tordre, et pour remettre dans le droit chemin les camarades qui laissaient percer des velléités de s'engager dans des voies dangereuses. Au demeurant, ces raclées nous eussent-elles fait défaut que rien, j'en suis persuadé, n'aurait été changé dans l'ordre de nos destinées, et nous ne les retrouvons avec plaisir d'ailleurs, ces raclées, que pour fixer comme des points culminants de notre histoire enfantine et situer quelques jalons, un peu cuisants parfois, dans le champ de nos souvenirs. Je connais assez bien les enfants de la campagne. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 25 ans. J'y ai été élevé et j'ai fait moi-même l'école au galopin des villages. J'ai donc pu voir mes héros par les deux bouts de la lorgnette où, si vous voulez, je me suis trouvé tour à tour par la force des choses des deux côtés de la barricade. Permettez-moi de débuter par quelques considérations générales, mais rassurez-vous, je les ferai aussi courtes et aussi peu ennuyeuses que possible. La pédagogie que j'ai pratiquée après l'avoir subie est sans doute une fort belle science, mais je n'en connais guère de plus vaine, de plus creuse et de plus inutile. Toutes les méthodes sont, permettez-moi le mot, de la fichaise. Je veux dire qu'avec un élève intelligent, elles sont toutes bonnes, et avec un crouton, elles sont toutes mauvaises, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne. Le seul résultat appréciable auquel on aboutit, c'est de rendre l'enfant hypocrite et dissimulé. Ce qui, d'ailleurs, ne nous en plaignons point, est une attitude nécessaire, et même indispensable, à la bonne marche de la vie sociale. Souvent même, et chez les marmots les plus sages, cette attitude se prend inconsciemment, naturellement. C'est une sorte de phénomène qui se pourrait qualifier de mimétisme moral, qui fait que le sujet adopte le langage et la tenue du milieu dans lequel il se trouve. L'enfant sait qu'à la maison, à l'école, à l'église, chez les voisins, une certaine attitude est de mise, qu'un certain langage est de règle. Il s'y conforme. Mais, une fois seul avec lui-même ou avec ses pairs, il se reprend et se montre tel qu'il est avec ses désirs vifs, ses besoins puissants et sa dévorante activité. Naturellement observateur, amoureux du pittoresque et de l'image, il a retenu toutes les expressions les plus colorées dont son oreille a été touchée. Il s'est assimilé les gestes les plus audacieux qu'il a vu faire, soit dans la rue, soit au café, soit à la maison, quand on le croyait occupé à autre chose. Et comme il est d'instinct, pour ne pas dire ancestralement, porté à l'imitation, il les répétera et les enseignera aux camarades. Mettre ses mains dans ses poches, porter son chapeau sur l'oreille, siffler comme un merle, imiter le chant du coq, meugler comme un veau, braire comme un âne, tituber comme un poivreau, sacrer comme une douzaine de charretiers en colère, exécuter des grimaces variées, en imaginer d'inédites, sont de menus plaisirs pour lui. De même, il sera enchanté d'appeler sa casquette une bâche, son mouchoir un tire-jus, et il lui semblera mille fois meilleur et plus beau, au lieu de donner à un adversaire une gifle sur la joue, de lui coller une baffe sur le tournant de la gueule. On se ferait une idée extraordinairement fausse des petits gars des champs, si on se les représentait bâillant aux corneilles et ahuris comme des vaches qui pour la première fois regardent passer un train, tels que les ont vulgarisés ou popularisés, excusez cet affreux mot, certains caricaturistes parisiens, qui ne connaissaient de la campagne que les fortifs, vus à travers une ivresse qui n'avait rien d'inspiratrice ou de génial. Les gosses de la campagne sont aussi dégourdis et débrouillards que ceux de Paris, moins dessalés peut-être sur certaines choses, et plus indécis devant ce qu'ils ne connaissent pas encore. J'ajouterais qu'en moyenne et en règle générale, leur intelligence est aussi solide, et s'ils sont plus lents, ils sont aussi plus véhéments et plus sains que leurs camarades citadins. Je ne dis point ceci pour vexer mon ami Machard. À la campagne, de même qu'en ville, les papas et les mamans veulent qu'on dise que leurs enfants sont polis et bien élevés, et ils y tiennent la main, voire la trique. Afin de vivre longuement, selon le commandement 4e du Décalogue, nous avons donc toujours, étant gosses, mes camarades et moi, honoré nos pères et mères, et nous leur obéissions toujours, quand ce qu'ils nous commandaient nous plaisait. Dans le cas contraire, nous obéissions encore, quand il n'était pas possible de faire autrement. De fort bonne heure, nous avions compris et nous nous étions assimilés cette vérité primordiale. L'essentiel est de ne pas se faire prendre. Pour avoir un jour lâché dans le sein de la famille quelques expressions hautement colorées et fait montre sur des questions un peu particulières d'un savoir qui dénotait de hautes facultés d'observation ou d'une remarquable précocité d'esprit, mon excellent ami la Crique reçut un jour de son père et de sa mère une double engueulade, si j'ose dire, et une double raclée. Il se le tint pour dit, gardant sa science acquise et sa truculence verbale pour de meilleures occasions. Ce furent les camarades qui bénéficièrent de ses enseignements, tandis que le papa triomphait à tort. « Tu vois, je l'ai corrigé, et maintenant il est convenable !» La Crique, en effet, était très convenable, plein de mansuétude et de politesse à la maison, mais tous les galopins du pays savaient que les grandes sœurs, enfin, beaucoup de choses. Camus, que la référence de son frère artilleur ne sauva pas de la frottée paternelle le jour où il entonna innocemment la chanson favorite de son aîné « Rien n'est si beau qu'un artilleur sur un chameau », se vengea également de la chose en apprenant le dit refrain à tous les copains. Il leur enseigna encore « Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir », j'imagine qu'il ne devait pas savoir pourquoi, puis « Chasseur, as-tu vu ?» et quelques bribes d'une autre rengaine où il est question d'un voyage assez pittoresque de Madeleine à Rome, fragments accrochés du répertoire classique des casernes. Cependant, l'honneur familial était sauf. Lacrique et Camus étaient de bons petits garçons et leurs auteurs de braves gens. Ce jugement d'ailleurs n'a rien d'ironique. Comme tous les autres, ces deux excellents camarades sont devenus bons citoyens, bons époux, bons pères de famille, et avec conviction ils corrigent leurs gosses quand ils sont mal embouchés, car eux aussi, maintenant, ils tiennent à ce qu'on dise que leurs enfants sont bien élevés. Au demeurant, à défaut de l'éducation, la vie se charge bien d'épurer ce limon, de décanter ce vin qui est souvent trouble parce que trop généreux, et tel qui est une fripouille ou un voleur ne l'est devenu que parce qu'il devait l'être. Né avec de mauvais instincts, tôt ou tard ses vices héréditaires se fussent développés. Ce sont toujours les mêmes qu'on revoit sur les bancs des tribunaux correctionnels, et les maisons dites de correction n'ont jamais fait que de dépraver et de pourrir au reste ceux qui l'étaient en y entrant. Il y a à l'école des gosses qui sont déjà des voleurs, des faussaires, des traîtres. Les punitions du maître, les raclées vengeresses des camarades, n'étouffent jamais chez ceux-là l'inviolable instinct sommeillant ou se dissimulant avec soin pour reparaître plus tard et s'épanouir avec éclat. Il en est chez qui ces mauvais instincts sont maintenus en sommeil par la force d'une discipline sévère, jusqu'à l'âge d'homme, et qui tout à coup se révèlent. On dit d'eux « Quels hypocrites !» Et c'est un tort. Les véritables hypocrites sont ceux qui les empêchent de se montrer sous leur vrai jour. Mais tout ceci n'a qu'un intérêt restreint et je vais, sans plus tarder, vous mettre au courant des faits et gestes de mes excellents camarades d'enfance. Les occupations des petits gars d'échange, je parle de ceux qui n'ont pas encore dépassé 14 ans, qui ne songent pas encore à faire l'homme, à fumer la cigarette en public, à boire la bière et à jouer aux quilles, leurs occupations, dis-je, varient selon la saison et les habitudes du pays. Car c'est un fait constamment observé, aussi bien au champ qu'à la ville, les mêmes jeux reviennent à intervalles à peu près réguliers. Au demeurant, la classification est facile à faire. De novembre à fin mars, ou plutôt de la Toussaint à Pâques, ils vont à l'école. De Pâques à la Toussaint, ils aident les parents aux travaux des champs. L'hiver, période durant laquelle ils se trouvent tous réunis, est l'époque des grandes expéditions. Car au rebours des armées permanentes qui ne commencent leur campagne qu'au printemps, c'est seulement aux environs du 15 novembre que les petits campagnards se préparent à s'aventurer sur le sentier de la guerre. J'ai tâché de présenter dans mon roman « La guerre des boutons » le côté épique d'une de ces mémorables campagnes dans laquelle j'eus l'honneur de servir, non sans gloire, aux côtés d'un valeureux chef et copain, le général Lebrac. Le conflit, qui mettait aux prises les villages de Longeverne et de Velleran, n'était pas si futile qu'on le pourrait supposer. Il puisait ses racines, si je puis m'exprimer ainsi, dans la nuit des âges de l'histoire locale. Chaque automne, un incident quelconque, ne faisait que remettre le feu aux jeunes poudres et la campagne recommençait. De même qu'il existe entre certaines vieilles familles des haines héréditaires et jamais éteintes, de même, entre les villages limitrophes, il a existé bien souvent des rancunes tenaces. L'origine de la querelle, qui dressait les uns contre les autres les gars du village de Longeverne et ceux de Velleran, était tout simplement une vache crevée. Il est vrai d'ajouter que la crevaison de cette vache avait occasionné une délimitation territoriale dont bénéficièrent les gars de Longeverne. La vache était peut-être crevée sous le règne de Louis XI ou de François Ier, mais cela n'empêchait pas de se cogner avec conviction. Au début, la haine avait été si puissante que des batailles et des assassinats s'en étaient suivis. Il était même passé en proverbe qu'on n'avait pas bien fait la fête si l'on avait aussi un ennemi ou deux. Cette tension s'apaisa peu à peu. Bientôt, ce ne furent plus que les conscrits qui se resserrent le jour du tirage au sort et du conseil de révision. Puis ces conscrits servant dans les mêmes régiments fraternisèrent à leur tour devant les tables de la cantine et ce furent les gosses qui devinrent les dépositaires de la vieille haine et les gardiens de l'honneur local. J'imagine bien qu'aucun document ne me permette d'étayer d'une façon certaine ma conviction que l'armement ne se modifia guère au cours des campagnes. Les cailloux en formèrent toujours la base essentielle. Par contre, les traitements subis par les vaincus varièrent. Ce fut là que se manifesta l'ingéniosité des chefs, de même que dans la recherche des moyens propres à éviter le châtiment en cas de déveine. Le délicat sentiment apprécié, je n'en doute mis, que j'ai de ne pas vouloir choquer vos chastes oreilles, m'oblige à passer sous silence la formule de la déclaration de guerre, ainsi que la période de tension diplomatique, si l'on peut dire, qui précéda la véritable entrée en campagne. Le langage de nos diplomates rustiques, s'il peut par certains côtés s'apparenter à celui des héros d'Homère, n'a rien néanmoins qui rappelle plus particulièrement la vieille galanterie française, encore que le fond en soit des plus anodins et fort innocent. L'ingéniosité du général Lebrac, quand il eut fait prisonnier le guerrier Verlan, Migue la Lune, se manifesta de la façon suivante. « Le rossé, c'est bien, pensait-il. Le faire rossé par ses parents, c'est mieux. » Il décida donc, pour le mettre hors de combat et l'exposer à toutes les foudres familiales, non point comme il l'en menaçait de lui couper les oreilles et autres appendices auxquels l'autre tenait fort, non, non, il décida de concert avec Camus, Lacrique, Tintin, Grand Gibus et les autres, de lui arracher tous ses boutons, de lui déchirer toutes ses boutonnières, de lui confisquer ses bretelles ainsi que ses jarretières et de lui rafler toutes les ficelles qui auraient pu aider plus ou moins au rétablissement de sa toilette. Je n'ai pas besoin de vous dépeindre la rentrée du malheureux dans ses foyers, ni de vous décrire par le menu la raclée familiale qu'il reçoit. Mais la victoire, comme toutes les femmes, est versatile et changeante. Quelques jours après, Lebrac fut pris à son tour et, malgré une défense énergique et glorieuse, rendu au sien dans le même état piteux que son ennemi Migue la Lune. Le père de notre général ne manqua pas de mal accueillir son rejeton, dont le bas du dos garda longtemps des traces cuisantes. Et la nécessité rendant ingénieux, il chercha comment il pourrait bien, en cas de nouveaux échecs et de nouveaux malheurs, prévenir le retour de danses toutes pareilles à celles qu'il avait déjà reçues. Il trouva un bon moyen, et je me fais un devoir en même temps qu'un plaisir de vous communiquer son secret. Pour ne pas abîmer ses habits en se battant, il n'y a qu'à se mettre tout nu. Faites-en votre profit, mesdames et messieurs, si l'occasion se présente. Mais je dois en toute sincérité vous avouer que, la saison étant humide et fraîche, ce procédé offrit tout de même, après essai, quelques inconvénients notoires qui nous contraignirent à y renoncer. D'autant que le garde champêtre, le père Zéphirin, dit Bédouin, une vieille rosse qui avait fait la campagne d'Afrique, vu des bicots tuer des chacailles et échapper à la dent des raquins, venait mettre assez souvent des bâtons dans les roues de notre train de combat. Ce fut alors que Lebrac eut son idée géniale. Constituer un trésor de guerre avec des boutons, du fil, des aiguilles, des agrafes, de la ficelle de pain de sucre pour bretelles et du lastique pour jarretière. Pour réunir les premiers fonds, on vota une contribution de guerre d'un sou par mois et par combattant. Quand Lebrac fit cette proposition, une dizaine de camarades se récrièrent. « Mince, mon vieux, comme t'y vas, t'es donc millionnaire, toi ? Un sou par mois, mais c'est des sommes, ça ! Jamais je pourrais trouver un sou à donner tous les mois !» Le général, d'un geste impérieux, imposa silence aux protestataires. Et voici dans quels termes il exposa à ses guerriers les moyens les plus propres à payer leurs contributions à la caisse commune. Je parle pas des commissions que tout le monde peut réussir à faire pour la servante du curé ou la femme du père Simon. Ils sont si rapias qu'ils ne se fendent pas souvent. Je parle pas non plus des sous qu'on peut ramasser au baptême et au mariage. C'est trop rare et il n'y a pas à compter dessus. Mais voici ce que tout le monde peut faire. Tous les mois, le pâtier, c'est-à-dire le chiffonnier, s'amène sur la levée de grange de fricot et les femmes lui portent leurs vieux chiffons et leurs peaux de lapin. Moi, je lui donne des os et de la ferraille. Et les gibus aussi, pas vrai, grand gibus? Oui, oui. Contre ça, il nous donne des images, des plumes dans un petit tonneau, des décalcomanies, ou bien un sou ou deux, ça dépend de ce qu'on a. Mais il n'aime pas donner des ronds, c'est un sale gripsou qui nous colle toujours des saloperies qui ne décalquent pas contre de bons gros os de jambon et de la belle ferraille. Et puis, ces décalcomanies, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'à lui dire carrément, selon ce qu'on porte, « Je veux un rond, ou deux, même trois, s'il y a beaucoup de fourbis. » S'il dit non, on n'a qu'à lui répondre. « Mon vieux, t'auras peau de zébi et remporté ton truc. Il veut bien vous rappeler ce sale juif-là, allez. » Je sais bien que les os et de la ferraille, il n'y en a pas des tas, mais le meilleur est de chiper des pattes blanches. Elles valent plus cher que les autres, et lui vendre le prix et au poids. « C'est pas commode chez nous, objecta Guerroilas. La mère a un grand sac sur le buffet et elle fourre tout dedans. T'as qu'à tomber sur son sac et en faire un petit avec. C'est pas tout. Vous avez des poules, tout le monde a des poules. Eh ben, un jour, on chipe un œuf dans le nid, un autre jour, un autre, deux jours après, un troisième. On y va le matin, avant que les poules aient toutes pondues, vous cachez bien vos œufs dans un coin de la grange, et quand vous avez votre petite douzaine, ou votre demi-douzaine, vous prenez bien gentiment un panier, et tout comme si on vous envoyait en commission, vous les portez à la mère Maillot. Elle les paye quelquefois en hiver jusqu'à 24 sous la douzaine. Avec une demi, il y a pour toute une année d'impôts. Ah, c'est pas possible chez nous, affirma Zozo. Ma vieille est si tellement à cheval sur ses gélines que tous les soirs et tous les matins, elle va leur tâter le cul pour sentir si elles ont l'œuf. Elle sait toujours d'avance combien qu'elle en aura le soir. S'il en manquait un, ça ferait un beau raffut dans la cambuse. Il y a encore un moyen qui est le meilleur. Je vous le recommande à terre tous. Voilà, c'est quand le père prend la cuite. Je suis content, moi, quand je le vois qui graisse ses brodequins pour aller à la foire à Versailles ou à Beaume. Il dîne bien là-bas avec les Montagnons ou les Pays-Bas. Il boit sec, des apéritifs, des petits verres, du vin bouché. En revenant, il s'arrête avec les autres à tous les bouchons et avant de rentrer, il prend encore l'absinthe chez Fricot. Ma mère va le chercher, elle n'est pas contente, elle grogne. Il s'engueule chaque fois. Puis il rentre et elle lui demande combien qu'il a dépensé. Lui, il l'envoie promener en disant qu'il est le maître et que ça ne la regarde pas et puis il se couche et fout ses habits sur une chaise. Alors moi, pendant que la mère va fermer les portes et éclairer les bêtes, je fouille les poches et la bourse. Il ne sait jamais au juste ce qu'il y a dedans. Alors c'est selon. Je prends 2 sous, 3 sous, 4 sous. Une fois même, j'ai chipé 10 sous. Mais c'est trop, et j'en reprendrai jamais autant parce que le vieux s'en est aperçu. Alors, il t'a foutu la peignée et mis Tintin? Penses-tu, c'est la mère qui a reçu la danse. Il a cru que c'était elle qui lui avait refait sa pièce. Et il lui a passé quelque chose comme engueulade? Ah, ça, c'est vraiment un bon truc, convint Boulot. Qu'en dis-tu, Batty? Oh, je dis, moi, que ça me servira à rien du tout, le truc à Lebrac. Parce que mon père, il se saoule jamais. Jamais? S'exclama encore toute la bande étonnée. Jamais, reprit Batty d'un air navré. Oh, ça, fit Lebrac, c'est un malheur, mon vieux. Oui, un grand malheur, un vrai malheur. Et on n'y peut rien. Alors, t'as qu'à rogner quand t'iras en commission. Je m'explique. Quand tu as une pièce à changer, tu cales un sou et tu dis que tu l'as perdu. Ça te coûtera une gifle ou deux, mais on n'a rien pour rien en ce bas monde. Et puis, on gueule avant que les vieux ne tapent. On gueule tant qu'on peut et ils n'osent pas taper si fort. Quand c'est pas une pièce, par exemple, quand c'est de la chicorée que tu vas acheter, il y a des paquets à 4 sous et à 5 sous. Eh bien, si t'as 5 sous, tu prends un paquet à 4 sous. Et tu dis que ça a augmenté. Si on t'envoie acheter pour 2 sous de moutarde, tu n'en prends que pour un rond et tu racontes qu'on ne t'a donné que ça. Mon vieux, on ne risque pas grand-chose. La mère dit que l'épicier est une fripouille, et cela passe comme ça. Et puis enfin, à l'impossible, personne n'est tenu. Quand vous aurez trouvé des sous, vous paierez. Si vous ne pouvez pas, tant pis, en attendant, on s'arrangera autrement. Nous avons besoin de sous pour acheter du fourbi. Eh bien, quand vous trouverez un bouton, une agrafe, un cordon, un lastic, de la ficelle à rafler, foutez-les dedans votre poche et aboulez ici pour grossir le trésor de guerre. La constitution du trésor de guerre donna les plus merveilleux résultats. La campagne se poursuit alors avec des alternatives de succès et de revers. On construit une cabane dans la forêt en utilisant des matériaux dérobés à la maison, et après une victoire, on fait la bombe. Une rivalité féminine, amour, tu perdis 3, suscite un traître qui dénonce aux ennemis l'emplacement de la cabane. Le trésor est pillé, le traître châtié, et comme je ne pourrai, dans le peu de temps dont je dispose, vous donner une faible idée du dénouement de cette sombre affaire, je vous fais grâce du reste. Quelles étaient cependant les armes dont se servaient ces guerriers? Les cailloux constituaient les projectiles essentiels. Ils se lançaient à la main, au bâton refendu, à la fronde à ficelle et à la fronde à lastique. Pour les combats corps à corps, on avait des triques, des lances pointusées au couteau et durcies au feu, ainsi que des sabres en bois avec une garde en fil de fer garnie de ficelles de fouet. La ficelle était ainsi d'une grande utilité en cas de guerre. Outre qu'elle servait à ligoter les prisonniers, elle pouvait également s'utiliser comme ceinture, comme jarretière, comme bretelle et comme cordon de souliers. Aussi était-elle aussi sacrée pour nous que le bœuf Apis l'était pour les riverains du Nil. De même, le mouchoir de poche, constitué généralement par un ancien torchon ou un débris de chemise paternelle, pouvait servir à de multiples usages. Oui, mesdames, le mouchoir n'est pas ce qu'un vain peuple pense. Les nôtres, selon le cas, s'utilisaient pour la propreté du nez, naturellement, puis comme lien, comme enquête des ficelles, comme bâillon, comme bandeau, baluchon, coiffure, bande de pansement, essuie-main, porte-monnaie, casse-tête, brosse, plumeau, cuirasse, etc., etc. Quant aux jeux auxquels nous nous adonnions au cours des récréations en dehors des batailles, je dois avouer que nous ne les acceptions que comme pis-aller et qu'ils nous paraissaient fades. Jouer au robard et aux brigands, même aux billes, ne nous disait pas grand-chose car nous avions mieux. Ne nous plaisaient vraiment que les plaisirs violents, qui avaient des rapports avec la Grande Guerre. La mise à sac, par exemple, de l'appartement du garde-champêtre. Ses allumettes, trempées dans l'eau. Le pétrole de sa lampe, remplacé par un reste de vin blanc. Des arrosoirs disposés pour qu'il les renversât en rentrant chez soi. Une poignée de sel ajoutée au plat qui devait constituer son dîner. L'obstruction totale ou partielle de sa cheminée avec de la marne, enfin. D'autres inventions d'un caractère plus salé encore et plus haut en odeur dont je ne puis vraiment vous faire part ici. J'en arrive au vol domestique, car je dois les confesser. Les révélations de Lebrac à ses soldats sur la façon de se procurer de l'argent vous ont déjà un peu initié sur les façons d'opérer. En dehors de ces petites sommes qu'une dure nécessité nous faisait un devoir de nous approprier, par façon de larcin furtivement fait, des clous et des planches nécessaires à la cabane que l'on construisit dans la forêt, cela se bornait à peu de choses. Un petit dessert supplémentaire sous forme d'un fruit, d'un morceau de gâteau ou d'un bout de sucre ou de pain d'épices, chipé à la cave ou dans le buffet de la cuisine. Les friandises qu'on nous offrait étaient rares, parcimonieusement distribuées. Elles n'en étaient que meilleures quand elles étaient conquises à la force du poignet. Les années de fruits, on tâchait de se faufiler à la cave et de gonfler ses poches de pommes ou de poires. La recherche du sac de noisettes familiales ou de la réserve de pruneaux secs constituait également une de nos essentielles préoccupations domestiques. Une fois cet endroit sacré découvert, il ne s'agissait plus que de choisir le moment propice pour pratiquer les visites d'usage et les prélèvements réglementaires et extra-légaux, en faisant en sorte que les autorités ne s'aperçussent que le plus tard possible du méfait. Être chipé était grave. Une double pile était promise aux maladroits, pincés en flagrant délit. Aussi opérait-on avec prudence. Quant à la maraude des fruits verts, chacun la pratiquait en petit malgré le veto des parents, mais sur ses propriétés à venir, mangeant ainsi comme panurge son blé en herbe et dévorant par avance son héritage futur. Une distraction qui nous intéressait vivement, c'était d'assister à la mise au lit de nos compatriotes. Nous appelions ça « aller au théâtre ». Quand l'un connaissait un bon coin, il conviait ceux qui pouvaient s'échapper à assister aux déshabillés et à l'entrée dans les draps des indigènes mâles ou femelles qui l'avaient déjà surpris dans cette posture. La chambre du poêle au village abrite souvent le lit conjugal. Cette chambre, qui donne d'ordinaire sur le verger ou sur la rue, se trouve toujours au rez-de-chaussée. Jamais de volets pour fermer la fenêtre, mais de simples rideaux que l'on tire le soir venu quand la lampe est allumée. Qu'on oublie même souvent de tirer, et qui ménage presque toujours des entrebâillements plus ou moins étroits par lesquels l'observateur peut faire de curieuses constatations. C'est ainsi que nous fûmes témoins de quelques couchers qui n'avaient rien de particulièrement sensationnel sans doute, mais qui nous intéressaient fort tout de même. Le jeu des femmes, prenant leur puce, entre autres, avait le don de nous mettre en joie. Comme les bons chasseurs, chacune avait sa manière. Nous les suivions attentivement, pinçant l'étoffe de la chemise, plongeant un œil inquisiteur dans des espaces mystérieux et troublants, mouillant le doigt puis lançant la main comme un projectile pour capturer le malheureux insecte qui venait claquer entre deux pouces vengeurs. Et l'air de béatitude qui s'étalait après chaque opération, inoubliable vraiment. Nous vîmes aussi quelques jeux plus ou moins anodins entre jeunes mariés, assez rares d'ailleurs, car cela se gardait mieux que les autres, et d'autres très farces entre vieux époux. Tout cela revêtant l'attrait du fruit défendu, pimenté par la crainte de prendre la bûche en rentrant chez soi, ou l'appréhension de recevoir, au moment le plus pathétique, le contenu d'un vase de nuit sur la tête. Quant au jeu, en compagnie des petites filles qui nous étaient formellement interdits par la famille, l'école et l'église, il présentait un attrait triplement captivant. Aussi, le soir, à la sortie de la prière, profitait-on souvent de l'obscurité complice pour les poursuivre dans les coins, leur chatouiller les côtes et les embrasser vigoureusement dans le cou, cependant qu'elles se débattaient en riant comme des petites folles. N'attendez pas que je vous en dise davantage, nous étions innocents comme le cabri qui vient de naître, et pas vicieux pour un demi-décime. Voilà qu'elles étaient à peu près, car il m'est impossible de tout confesser, voilà qu'elles étaient, dis-je, avec les batailles à coups de boules de neige, les glissades et le patinage, nos principales distractions d'hiver. Quand le printemps était précoce, ou que la saison d'écolage en vue de la préparation au certificat d'études et à la première communion se prolongeait un peu, la grande occupation des heures de loisirs consistait dans la traque au nid. Nous étions six qui nous étions associés pour cette sinistre besogne. Ce n'était pourtant pas aux petits oiseaux que nous en voulions, pinsons, chardonnerets et fauvettes pouvaient bâtir en paix, pondre, couver et faire éclore sans hâte avec nous. C'était dans le grand que nous donnions, et par les bois que se perpétraient nos raptes et nos meurtres. Nous traquions les jeunes merles pour leur apprendre à siffler, les geais pour leur apprendre à parler, les corbeaux pour leur apprendre à se saouler, les pies pour leur apprendre à chaparder, et les grives, pour rien, pour l'égalité devant les malheurs sans doute. Les partages se faisaient suivant des conventions bien déterminées. Certains d'entre nous revendaient leur part de prise à des amateurs. Tintin et Lacric, à qui les papas avaient formellement interdit ce genre de sport, troquaient contre de la farine de maïs leurs oisillons à grand gibus, lequel, ayant au moulin des cages et des graines, se livrait avec rage à l'élevage de ses captifs. Pourtant, grand gibus n'avait pas de veine. Beaucoup de ces oisillons privés des soins maternels périssaient. Un corbeau, déjà dressé, et comment, il buvait du vin, avait jugé bon néanmoins de renoncer aux bienfaits de la civilisation et de reprendre la clé des bois. Une pie, malgré ses ailes à demi rognées, avait agi de même. Un merle qui sifflait la Marseillaise, aux armes citoyens, était mort, sans doute, d'une fièvre patriotique. Enfin, un jet qui donnait les plus belles espérances, il bouffait mon ami, disait grand gibus, comme un cochon, bouffa si bien qu'un jour il avala avec la bouillie de farine que lui tendait son fournisseur la petite palette en bois qui lui servait de fourchette, et s'étrangla comme de juste. Ces accidents ne désespéraient point l'éleveur, qui, avec de nouveaux sujets, faisait de nouveaux essais et mettait au jour le jour les camarades au courant des progrès réalisés par ses pensionnaires. Les récits éblouirent Tintin qui se résolut, malgré la défense familiale, à dresser lui aussi merles et geais. Il eut moins de veine encore que grand gibus. Le premier soir qu'il s'en revint à la maison avec deux geais et un merle, son père lui tomba dessus. Et pour lui apprendre l'obéissance et le respect des nids, l'obligea à tordre le cou à ses malheureuses victimes qui tournaient déjà de l'œil, à les plumer, à les vider, à les barder de lard et à les manger pour son souper. D'écœurement, de dégoût et d'indigestion, Tintin vomit tripes et boyaux et faillit en crever pendant la nuit. Le lendemain, il déclara qu'il quittait l'association. Camus, quelques jours plus tard, ayant dégringolé d'un peuplier où il avait monté un nid d'agaces et s'étant fort endommagé le derrière, elle fut alors régulièrement dissoute, d'autant qu'arrivait la belle saison, et que les parents allaient réclamer de leur rejeton toute l'aide et l'assistance qu'ils étaient en droit d'espérer. Il fallait conduire les bêtes au pâturage, travailler au foin, faner, mettre en meule, javeler derrière les moissonneurs, voire pour les plus grands, apprendre à faucher et à aiguiser la faux, besogne qui exige un certain doigté et pas mal de pratique. En vérité, la seule besogne qui laissait des loisirs était la garde des troupeaux. Quand on était seul, ce n'était pas extrêmement folâtre, il fallait s'ingénier à des travaux divers de construction. S'il y avait de l'eau à proximité, on ne s'embêtait pas. Mais si aucun ruisseau ne se trouvait aux alentours, le solitaire en était réduit pour charmer les heures à bâtir avec des bouts de bois et des cailloux de vagues abris, ou à établir avec de la bouse de vache et de la terre rendue humide, par un procédé aussi simple qu'ingénieux, mais que je n'oserais pas vous dévoiler, des plans plus ou moins compliqués. Une des choses les plus savantes qui aient été réalisées dans cet ordre d'idées fut le plan du village, avec les rues, les maisons, voire les habitants. Le Braque était l'auteur de cette œuvre, que beaucoup s'en furent visiter, surtout quand on apprit la réponse qu'il avait faite à un interview du sacristain qu'il n'aimait pas. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avait interrogé l'autre. « C'est le village. » « Ah, très bien, très bien. Et cette bâtisse ?»«
C'est notre maison. »«
C'est bien beau, ma foi. Mais où qu'est l'église ?»«
Lave-la, avec le curé. » »«
Et le sacristain ?» Le sacristain, avait répondu le Braque, d'un air à la fois innocent et moqueur, « Le sacristain, j'ai pas assez de choses de vache pour le faire. » L'autre, inutile de vous le dire, n'insista pas, et s'en alla. Lorsque plusieurs camarades étaient réunis, cela devenait beaucoup plus gai. Malgré la défense des parents qui auraient trouvé fort mauvais ce joyeux et précoce communisme, nous laissions nos troupeaux se mélanger sur l'ensemble des pâturages et nous prenions du bon temps. Nous nous offrions de petits festins dont le menu variait suivant la saison. Quant à nos jeux, ils étaient variés autant qu'ingénieux. Un saule, au tronc mutilé par les pointes de nos eustaches, témoignait que pour lancer le couteau, le plus maladroit de la bande eût rendu des points à n'importe quel indigène cisalpin. À d'autres moments, bien qu'il n'y eût pas de spectateurs, on jouait sans décor déjà et en pleine verdure, un drame quelconque, tiré par la crique d'une page de l'Histoire de France, ou du dernier livre qu'il avait lu, l'Histoire de Barbe Bleue par exemple. Camus pour cela grimpait à l'arbre qui figurait la tour, et la crique, épouse vouée au couteau, lui murmurait d'en bas d'une voix lamentable « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» À cette interrogation angoissée, il n'était pas rare d'entendre sœur Anne répliquer sur un ton inattendu « Zut, je vois Bédouin, le garde champêtre, qui s'amène par le petit sentier !» Sur cette déclaration sensationnelle, la séance était suspendue. Barbe Bleue et l'épouse désobéissante et les braves capitaines fraternisaient immédiatement pendant que sœur Anne dégringolait de son perchoir et tous, séparant vivement les troupeaux confondus, affectaient de garder sévèrement les limites de leurs pâturages respectifs. Bédouin s'en allait, avec la satisfaction du devoir accompli, et l'on en avait pour une huitaine de tranquillité. Pour être tout à fait assuré d'avoir la paix avec de turbulents béliers et des chèvres capricieuses qui voulaient absolument manger l'herbe d'autrui, la crique trouva un jour un procédé fort remarquable qui donna les plus merveilleux résultats. Il les endormit radicalement, tous et toutes, moutons, brebis, chèvres, et songeait même à appliquer aux vaches sa méthode. Cette méthode, je ne vous l'indiquerai pas, car je veux me conserver des lecteurs. Je ne veux pas vous dévoiler la substance de mes livres futurs. Vous apprendrez en son temps la méthode de l'ami Lacrique. Elle n'a rien de mystérieux et ne touche pas plus à l'hypnotisme qu'au spiritisme ou à quelque autre science occulte. Sachez seulement que le bouc lui-même, malgré sa méfiance et sa force, fut valeureusement terrassé, amené à la table d'opération et endormi comme les camarades. Cependant, l'opération dut présenter quelques défectuosités, peut-être aussi l'animal était-il seulement plus difficile à réduire. Toujours est-il que, mal endormi, il se réveilla furieux au moment où l'on y pensait le moins, et nous tomba dessus sans crier gare. La crique fut renversée par un coup de tête terrible. Le Braque et Tintin roulèrent cul par-dessus tête. Tigibus, qui voulait battre en retraite, fut allongé de tout son long dans le ruisseau, et Camus ne dut son salut qu'à son agilité à grimper aux arbres. D'ailleurs, il ne devait pas couper lui non plus à la vengeance de l'encorné. Le soir, au moment de revenir, quand il ne pensait plus à rien et que tout semblait rentrer dans l'ordre, il reçut dans le derrière, sans gloire, un coup de corne formidable qui l'envoya rouler jusque dans les jambes de ses vaches. Je pourrais également vous prouver que l'origine des courses est des plus rustiques et que le pari mutuel a été, en petit, mis en pratique par nous au moment des grandes chaleurs, quand les vaches incommodées par les mouches et par la soif lèvent la queue et prennent le pas de charge vers l'écurie et l'abreuvoir. Mais je n'ai déjà que trop abusé de votre attention. C'est pourquoi, sans chercher une conclusion qui pourrait être aussi vaine que savante, je vous remercie, mesdames et messieurs, de la bienveillance avec laquelle vous avez écouté mes petites histoires, et je cède la parole à mon ami Trick, je veux dire Alfred Machard.